autour de la question
« Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment en fait ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
À quoi ça sert ?»
Caroline Nachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, entre mythes et réalités, sur les traces de ces aventuriers du temps perdu que sont les archéologues. Comment un brin d'ADN conservé dans la glace, une empreinte colorée sur les parois d'une grotte, une épée exhumée dans une tombe, comment ces vestiges du passé, ces fossiles ont construit et déconstruit l'histoire de notre humanité. De A comme encore, à Z comme The Lost City of Z, en passant par E comme Égypte ou N comme Néandertal, notre invitée, l'archéologue et historienne Anne Loerf, nous ouvre son dictionnaire amoureux de l'archéologie. Une vraie mine d'or où l'on croise évidemment les incontournables de la grotte de Lascaux aux manuscrits de la Mer Morte, mais aussi de drôles de héros de notre enfance, de Rahan à Obélix en passant par Indiana Jones, sans oublier Toutankhamon et ses prothèses. L'archéométallurgiste Anne Loerf fait décidément feu de tout bois et de toutes les matières et de toutes les références pour nous faire passer sa science et sa passion de façon ludique autour de la question pourquoi et comment faire un dictionnaire amoureux de l'archéologie, de A comme Abou Simbel jusqu'à Z comme The Lost City of Z, la cité perdue de Z, extrait.
C'est toi l'explorateur, donne-moi ta main.
Je suis à la recherche d'une cité perdue.
Ce que tu cherches dépasse de loin tout ce que tu as pu imaginer. Là est ton destin.
Qu'est-ce que vous espérez accomplir ? Si nous venons à découvrir une civilisation cachée, là où nous considérions que c'était impossible, cela pourrait ouvrir un chapitre inédit de l'histoire de l'humanité. Je l'ai nommée Z. Elle existe. Et notre devoir est de la trouver.
Extrait épique de la bande-annonce du film The Lost City of Z de James Gray que vous citez à la lettre Z de votre dictionnaire amoureux de l'archéologie. Bonjour Anne Loerf.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager donc votre amour, votre passion pour l'archéologie. Je rappelle que vous êtes Anne, archéologue et historienne, professeure à l'université de Cergy-Pontoise où vous occupez la chaire d'archéologie et patrimoine. Vous êtes également présidente du Conseil national de la recherche archéologique. Vous êtes une spécialiste de l'âge de bronze, archéométallurgiste pour être précise, auteur entre autres d'un formidable essai Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre, mais cette fois-ci dans ce dictionnaire amoureux de l'archéologie qui vient de paraître aux éditions Plon, c'est plus, comment dire, à l'homo ludens, à l'humain joueur ludique que nous sommes, que vous vous adressez avec ce dictionnaire aux entrées parfois étonnantes, d'Indiana Jones jusqu'à Obélix en passant par E comme erreur. Et même S comme saucisson.
Oui, ce dictionnaire a des entrées étonnantes parce que c'était un dictionnaire amoureux. Donc, je crois que le piège dans lequel il fallait que je ne tombe pas, c'est de faire un dictionnaire trop académique avec des entrées toutes très sérieuses, même s'il y a des entrées sérieuses. Et si le contenu de certaines entrées sous des mots qui effectivement semblent ludiques sont des entrées sérieuses. Erreur peut paraître surprenant, mais en fait, quand on fait de la science, quand on fait de la recherche, il faut évidemment avoir à l'esprit la possibilité d'une erreur possible et avoir une forme de modestie, d'humilité. Il y a une entrée humilité
également. Oui, il y a une entrée humilité aussi.
Parce qu'on peut effectivement se tromper quand on cherche, même avec un protocole le plus rigoureux possible et d'une certaine manière, ce n'est pas grave, mais il faut reconnaître que ça existe.
C'est ça, il faut reconnaître que les erreurs existent, elles font parfois avancer, puis aujourd'hui, il y a de nouvelles techniques, il y a aussi cet ADN qui permet de revenir sur des terrains de fouilles comme dans les collections. On a le droit de se tromper, c'est une reconstitution. On a le droit aussi de rêver, de s'amuser. C'est un plaisir, parfois avec un goût d'enfance, quand on lit votre dictionnaire. C'est ça aussi l'archéologie, de toute façon, quand on parle de cités perdues, des premiers hommes, des premières peintures de l'humanité, on rêve aussi. C'est de l'ordre du rêve. rêve quand même.
Il y a une part de rêve. C'est ça. C'est évident, il y a une part de rêve. Et cette part de rêve du monde archéologique, des trésors enfouis, cachés, qu'on redécouvre, ce sont des rêves qui sont très largement partagés par tous les enfants. D'ailleurs, il y a aussi une entrée enfant. Et puis, il y a des enfants qui grandissent et qui deviennent d'autres que des archéologues. Et puis, il y a des enfants qui grandissent et qui deviennent des archéologues et qui donc transforment d'une certaine manière ce rêve du trésor caché en un métier, en une enquête scientifique, avec tous ces protocoles que l'on évoquait, ces méthodes qui ne sont sans cesse affinées. Et en même temps, cette quête et cette enquête restent d'une certaine manière tendues par une part de rêve. On court après quelque chose qui est beau et voilà.
Et la petite Anne Noer, si j'ose dire, et aujourd'hui l'archéologue que vous êtes, spécialiste de l'âge du bronze, du métaux, vous faites vraiment feu de tout bois dans ce dictionnaire et de tous les métaux. C'était quoi votre rêve ou ça serait quoi votre rêve aujourd'hui? De tomber sur quoi? De trouver quoi? De chercher quoi peut-être?
Alors, petite, je faisais comme tous les gamins, j'allais gratouiller. J'ai vraiment, je pense, formalisé cette question de l'archéologie, d'un regard sur le passé. Il y a eu des moments. C'est vrai que visionner Il était une fois l'homme a compté dans mon enfance, dans ma petite enfance. Découvrir les Étrusques, le livre qui m'a été offert a compté également, parce qu'il y avait des images. Enfin, voilà, ça transportait vers un autre monde.
Un autre monde, hein, le chapitre Étrusque, c'est vraiment un autre monde à la lettre E comme Étrusque.
Tout à fait. Et aujourd'hui, je pense que ce qui me plairait beaucoup, c'est d'arriver à trouver, enfin, la métallurgiste que je suis, un atelier en place, qui a pratiquement aucune chance d'arriver, mais d'une certaine manière, pour arriver à avoir toutes les étapes de la chaîne opératoire, après lesquelles, en général, je cours au laboratoire ou sur le terrain. Et là, de l'avoir en place, ça peut être effectivement une très belle expérience.
Alors, on va croiser des épées, bien sûr. On va croiser Toutankhamon, on va croiser Rahan. Et puis, évidemment, des incontournables, comme à la lettre T, les taureaux de Lascaux, chef-d'œuvre de l'humanité. Des origines, hein, chef-d'œuvre et pour toujours. Ce sont évidemment qui ornent la couverture de ce très beau dictionnaire amoureux de l'archéologie. Autour de la question pourquoi et comment faire justement un dictionnaire amoureux de l'archéologie, je propose tout de suite un premier éclairage. Allez, in situ à Lascaux, mais Lascaux 4. Hein. Visite guidée par Guillaume Colombo, le directeur de ce site de la 4e reconstitution de la grotte de Lascaux, au micro d'Alice Milot.
Tout de suite, quand on arrive, c'est la première chose qu'on voit. On a cet espace très minéral et puis ces couleurs et ces formes qui nous sautent aux yeux. On retrouve cette profusion de couleurs, de pigments ocre jaune, de pigments ocre rouge, de pigments noirs. Et les deux particularités de Lascaux, ce qui frappe, sont un, la taille des représentations. Les peintures font plusieurs mètres d'envergure. C'est vraiment une particularité importante à Lascaux. C'est à Lascaux qui est encore la plus grande peinture connue à ce jour de la période préhistorique. 615 animaux qui sont dans cette grotte, soit peints, soit gravés, et qui peuplent, on va dire, le bestiaire imaginaire de la grotte de Lascaux.
Extraordinaire bestiaire imaginaire de la grotte de Lascaux, mais j'ai envie de dire de toute l'humanité, face auquel on ne peut que être fasciné. Ça nous parle, et puis ça vous parle encore plus en tant qu'archéologue, Anne Noer.
Oui, c'est vrai que la salle des taureaux de Lascaux est un endroit absolument exceptionnel qui invite au rêve. On parlait du rêve à l'instant et des enfants. En plus, la grotte de Lascaux a été découverte justement par des adolescents. Il y a une histoire d'un animal qui est tombé dans un trou. Il y a l'idée du hasard.
Les années 40, hein, découverte.
1940. C'est ça, hein. Et ça a quelque chose d'important aussi parce que finalement, on entre en guerre. Et on a, malgré ce temps de guerre, cette part d'une ouverture vers un autre monde et vers un passé, donc vers quelque chose de différent. Il a fallu renoncer sur un dictionnaire. C'est pas une encyclopédie, c'est pas un ouvrage académique. Oui. Donc il y a 161 entrées, dont une qui s'appelle Regret, pour essayer de faire rentrer tout ce qui n'a pas pu rentrer. Et alors c'est pire pour la couverture, parce qu'il ne fallait qu'une image. Donc là, c'est le pire du pire. Et donc...
ça ne pouvait être que cette image des taureaux de Lascaux,
ça ne pouvait être que cette image, parce que je trouvais que justement elle prenait en compte cette part de rêve, elle prenait en compte aussi l'évolution de finalement ce qu'est l'archéologie au cours du XXe siècle et aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles méthodes que l'on met à contribution, cette nécessité de préserver, puisqu'on a commencé par abîmer Lascaux, et puis avant d'en être conscient, d'où le fait de faire des répliques comme Lascaux 4. Donc il y a toute cette réflexion associé à la découverte et au rêve qu'il y a à Lascaux. Et puis la figure de la salle des taureaux, ces taureaux sont magnifiques.
Ah, ces taureaux sont magnifiques et voilà. Nous parlent aujourd'hui comme hier, évidemment. Et puis, il y a aussi, alors dans cet art pariétal, et notamment à Lascaux, dans ces animaux bondissants, certains parlent aujourd'hui de premiers dessins animés de l'histoire. Donc, il y a peut-être aussi un peu de notre histoire de l'art ou de la culture autour de la question pourquoi faire un dictionnaire amoureux de l'archéologie. Alors, c'est aussi une manière de remonter aux origines de nos cultures humaines, hein, de l'art avec l'art pariétal. C'est aussi votre dictionnaire amoureux de l'archéologie, une manière de nous faire remonter presque aux origines de la musique. Je m'arrête là maintenant à la lettre L. Vous nous faites découvrir, alors on peut même faire à la radio, un court extrait de la musique L comme l'ours. Oui. C'est ce qu'on entend là. Comme l'ours, Anne Loer, première musique de l'humanité, sauf que là, c'est un groupe que vous nous avez fait passer entre les deux oreilles, le groupe du professeur Chill.
Oui, alors les lourds, ce sont...
Les lourds,
ouais. L'ours, alors la question c'est que c'est nous qui avons donné un nom à un instrument qui date en fait de la fin du deuxième millénaire avant notre ère et qui est né dans des sociétés qui n'avaient pas l'écrit. Donc c'est nous qui avons inventé le mot, donc d'une certaine manière on doit pouvoir le dire un petit peu comme on veut. Ce qui est intéressant c'est que ce ne sont pas les tout premiers instruments de l'humanité, puisqu'il y a des instruments au paléolithique, bien avant, à l'époque de Lascaux, on avait des instruments de musique. Ce qui est intéressant avec ces lourds c'est que on a les premiers instruments européens connus en métal, ce qui évidemment donne des sons très étonnants. C'est une espèce de corne de brume.
C'est ça.
Les Scandinaves ont refait ces cornes, qui sont des cornes qui font à peu près un mètre de haut. Si on va au musée de Copenhague, on voit des originaux en vitrine. C'est tout à fait remarquable. Et puis, les Scandinaves font des concerts de lourds, ce que je trouve assez drôle et assez ludique, finalement, pour aborder le passé. Et on se rend compte que la musique est un lien, un liant entre les hommes qui est très important et qui sert dans de nombreuses cérémonies. On les voit représenter ces cornes sur les pictogrammes scandinaves de la même époque, du deuxième millénaire, associés à des bateaux, à des épées, à la guerre. Et donc, il y a évidemment toute une symbolique, il y a une réalité de la musique qui rassemble les hommes. Et avec cette musique, il y a évidemment une utilisation dans des circonstances très variées.
Pour le meilleur comme pour le pire, comme à chaque fois, finalement, de l'humanité.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'on se dit que cette musique, elle peut être... Ou les premières, vous n'étiez pas les premières musiques de l'humanité, pouvaient être sur des pierres, pouvaient être des flûtes aussi. Enfin, pouvaient être rassembleurs spirituels pour appeler les esprits ou pour appeler la guerre. On est d'accord.
On est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation... On imagine les premiers instruments, effectivement, les hommes rassemblés, pourquoi pas autour du feu, entre il y a 400 à 500 000 ans à peu près, où on raconte des histoires, où on fait de la musique, ça peut être...
Où on danse.
Où on danse, évidemment. Enfin, voilà, il peut y avoir tout ça. Et puis, ces instruments, visiblement, assez tôt, sont associés à des cérémonies autres, qui peuvent être des cérémonies religieuses, des cérémonies mortuaires, et puis des événements, comme effectivement le combat avant, après, pendant.
Alors, le combat des ancêtres de notre humanité, vous avez travaillé là-dessus, mais vous m'avez beaucoup amusé là, à la lettre R de votre dictionnaire amoureux de l'archéologie. Voici ce que vous exhumez. Notre mémoire, ce que vous faites remonter à nos oreilles et qui nous parle, même à la radio.
Rahan, l'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Rahan, l'enfant de tous les hommes.
Oui, Rahan. Bon, moi, je préférais la bande dessinée que cette musique qui accompagnait, donc le dessin animé. Rahan, sa bande dessinée, en tout cas, à moi, illuminait mon enfance, c'est vrai. Et c'est à partir de cette légende, parfois incongrue, que l'archéologue que vous êtes, Anne Loerf, nous raconte de très belles préhistoires de science, finalement.
Oui, mais en fait, Rahan, c'est un personnage qui est impossible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un homme de la préhistoire qui croise des animaux qui ont disparu quand il est censé exister, qui traverse des épisodes qu'il n'a absolument pas pu vivre. Et donc, c'est un homme préhistorique impossible. Puis il a tout, du héros, du beau mâle.
Blond et blanc, quand même.
Blond, blanc,
hein, c'est ça, voilà.
Tout à fait caractéristique. Donc une figure quand même très ancrée dans une réalité bien particulière. Oui. Et puis en même temps, voilà, il a effectivement accompagné des générations d'enfants. Il est un petit peu dépassé aujourd'hui, je crois. C'est clair. Et en même temps, il reste un personnage à partir duquel on peut entrer en préhistoire d'une certaine manière.
C'est ça, c'est une manière d'entrer en préhistoire finalement, même si c'est faux, même si c'est une manière, parce qu'au fond ça nous attire tous, mais même les faussetés, les incongruités, les aberrations parfois, peuvent nous permettre de toucher une autre réalité ou d'y aller, d'avoir envie d'y aller, c'est ça ?
Mais en fait, quand un personnage comme Rahan, il est faux, mais en même temps, il est réel parce qu'il existe dans la bande dessinée. Donc, on est obligé de tenir compte du fait qu'il existe. Et donc, on va partir de cette réalité de bande dessinée pour, d'une certaine manière, le déconstruire et pouvoir travailler à la construction d'un discours historique qui, lui, sera le fruit de la connaissance archéologique de la science d'aujourd'hui, qui, elle, alors, est-elle vraie ou comporte-t-elle des erreurs ? En tout cas, elle est scientifique. Et elle est le résultat de travaux par des archéologues eux-mêmes.
C'est ça, parce qu'au fond, la préhistoire, c'est une reconstitution qui peut évoluer au fil des techniques et au fil des années. C'est aussi une déconstruction, parce qu'avec cet ouvrage, vous décalez aussi beaucoup notre regard. C'est aussi une déconstruction de nos mythes. Vous vous servez de nos mythes pour les déconstruire un peu, hein, c'est ça ?
Mais je pense qu'en fait, les mythes, d'une certaine manière, pour un public large auquel s'adresse le dictionnaire, c'est peut-être ce que les gens connaissent le plus. Donc, les faire rentrer dans certaines vérités par les mythes qu'ils connaissent, c'est une voie qui m'a semblé finalement possible pour amener le lecteur vers d'autres entrées, mais en partant finalement d'un Rahan qui lui dit quelque chose.
Absolument, moi en tout cas, ça me dit quelque chose autour de la question. Pourquoi et comment faire un dictionnaire amoureux de l'archéologie ? Alors, ce décalage du regard, hein, cette manière d'inviter aussi bien Rahan que Toutankhamon et les autres, suscite des réactions partagées chez certains archéologues préhistoriens comme le professeur Jean Guilaine, éminent préhistorien de la Méditerranée qui était récemment notre invité et qui nous a laissé cette question pour vous, Anne Loerff.
J'ai bien conscience qu'il est difficile, quand l'on traite un sujet aussi vaste que celui qu'Anne Loerff a entrepris, de sélectionner les entrées, les sujets à développer. Toutefois, j'observe qu'Anne semble préférer les personnages de fiction, Rahan, Indiana Jones, ou bien les peintres ou les illustrateurs, évocateurs plus ou moins crédibles de thèmes archéologiques, Louis Figuier, Paul Jamin, aux maîtres archéologues, Mortillet, Breuil, Deschelette, Child, qui ont balisé l'histoire de la discipline. Pourquoi ces choix des périphériques, appelons-les ainsi, à ceux qui ont été au cœur de la constitution du savoir.
Votre réponse, Anne Loerff.
Alors, ma réponse, en fait, c'est que je ne sais pas si je rentre par les périphériques. C'est-à-dire que des noms comme Jamin ou Child, qui sont dans le dictionnaire, Child n'est pas absent du dictionnaire. Mais je ne suis pas certaine que le lectorat d'un tel dictionnaire connaisse qui est Gordon Child. Mmh. Et donc, du coup, il n'est pas sous son nom à lui, il est sous d'autres entrées. Il est dans l'entrée néolithique, il est dans l'entrée Ex Oriente Lux.
Petite parenthèse, qu'est-ce que c'est que ex-orienté ?
La lumière vient d'Orient. C'est tous nos fondements, finalement, qui consistent à voir l'histoire de l'Europe comme étant le résultat d'un éclairage venu d'Orient et qui aurait illuminé les sombres brumes de l'Europe du Nord, qui est une idée contre laquelle je m'insurge. Oui, je pense que les sociétés du Nord de l'Europe ont aussi eu des lumières.
C'est ça, et que toutes les sociétés ont eu des lumières.
Toutes les lumières, exactement.
Qu'on découvre dans votre ouvrage. Et je vous laisse continuer justement ce préhistorien-là ou sur le fait que vous n'êtes pas arrivé par les périphériques, mais vous nous faites rentrer, nous, grand public,
c'est ça, c'est
autrement.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai préféré rentrer par Rahan pour parler de paléolithique et pour parler de Breuil, plutôt que de rentrer par l'entrée Breuil.
Par l'abbé Breuil.
Et donc, en fait, je n'exclus pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je crois que c'est ce que je fais avec mes étudiants, c'est-à-dire que la pédagogie, je crois, est d'essayer de faire rentrer les gens par les portes et les fenêtres par lesquelles ils ont envie et ils sont capables de rentrer. Et donc, du coup, à partir de là, quand ils ont eu envie, qu'ils ont manifesté leur envie, on les accompagne. Et là, on peut effectivement parler de Child, on peut parler de Breuil, on peut parler des grands hommes, on peut parler de théories compliquées. Mais si on commence par là, ça me semble plus difficile d'accès.
Par exemple, pour prouver ce que vous venez de dire, Anne Noerff, par exemple, plutôt que nous parler de mégalithique, il y a un moyen très simple hein, pour nous parler des menhirs, c'est de nous faire passer par la case Astérix, Obélix et Idéfix.
Ah, voici Idéfix, la mascotte du village et le grand ami d'Obélix, le livreur de menhirs.
Rapporte Idéfix, allez mon chien, rapporte là. Je lui apprends à rapporter des menhirs, Astérix. Comme ça, il pourra m'aider dans mon travail.
Tu sais, Obélix, ce n'est pas que je mette en doute l'intelligence d'Idéfix, mais je me demande quelquefois s'il n'est pas un peu petit pour tes menhirs.
Et voilà comment Astérix, Obélix et Idéfix nous font passer, à quelques erreurs près en tout cas, de nombreuses idées sur les menhirs, justement, et sur les mégalithes.
Oui. Anne Noerff. Effectivement, c'est-à-dire que j'ai choisi l'entrée, c'est tout à fait ce que vous venez de dire par rapport à la question de Jean-Guilhem, c'est-à-dire que j'ai choisi l'entrée Obélix plutôt que l'entrée mégalithisme, parce que Obélix, tout le monde le connaît, et qu'on sait qu'effectivement c'est un livreur de menhirs, et c'est intéressant parce que, en fait, au moment où Obélix est censé avoir vécu, les menhirs ont disparu, ne font plus partie de la vie des sociétés.
C'est ça, ils existent.
Mais... ils existent, c'est-à-dire que c'est même un des seuls vestiges du néolithique qui est très visible dans les paysages et qui a accompagné l'évolution des sociétés jusqu'à aujourd'hui, sans le mode d'emploi, ce qui évidemment a donné toutes les légendes possibles et tous les anachronismes possibles, et Obélix en est un. Et les aventures d'Astérix et Obélix, c'est une espèce de collection comme ça d'idées aussi reçues. Ce sont des personnages sympathiques. Astérix est l'anti-Vercingétorix, donc à lui seul, il est une construction, c'est un anti-Rahan.
Oui, c'est ça.
On n'y est pas du tout.
Un petit blond à moustache.
C'est un petit blond à moustache, et le dessinateur dit lui-même qu'il a voulu faire l'anti-héros tel qu'on se le représentait, donc l'anti-Vercingétorix, grand, baraqué, moustachu, et que l'on trouve justement là aussi dans des tableaux, comme pas ceux de Paul Jamin, mais ceux de Royer, où on voit Vercingétorix jetant ses armes aux pieds de César, que l'on retrouve dans des albums d'Astérix, par exemple. Et donc, l'utilisation de cette bande dessinée, ça permet là aussi de faire rentrer par un personnage très connu, finalement un sujet qui est assez complexe, parce que le mégalithisme, c'est un sujet très compliqué.
Le mégalithisme, c'est donc ces pierres érigées dans le monde entier. Parfois, il y a des pierres levées, on en retrouve jusqu'en Éthiopie, enfin Stonehenge.
Alors la phase que l'on connaît de Stonehenge, c'est la dernière phase, mais le mégalithisme européen traverse toute une partie du néolithique, la plus grande partie du néolithique à partir du 5e millénaire globalement. On a ces monuments géants qui accompagnent l'histoire des sociétés jusqu'à la fin du 3e millénaire, début du 2e millénaire avant notre ère. Et donc, pourquoi est-ce qu'on les construit? Comment on les construit? Comment ils évoluent? Puisqu'on aperçoit qu'il y a plusieurs phases. Donc, il y a derrière toute une connaissance historique assez complexe dans laquelle il faut rentrer. Et la porte d'entrée par Obélix, finalement, fonctionne assez bien pour essayer de faire rentrer un lectorat dans ces questions qui sont des questions assez érudites, savantes, et qui ne cessent d'ailleurs d'évoluer.
C'est ça, qui ne cesse d'évoluer, parce que c'est aussi l'archéologie, on découvre aussi le prisme complètement occidental, parce que c'est une science qui a été inventée quand même en Europe. On découvre aussi l'humanité au présent, pas seulement l'humanité au passé, ça éclaire notre présent, et ça éclaire aussi celui de notre passé proche. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, il n'y a pas seulement les techniques, il y a aussi les archéologues eux-mêmes, les femmes archéologues notamment, qui ont fait bouger et changer les lignes et les choses et les approches.
Oui, parce que je crois que finalement, l'archéologue, c'est un chercheur et un intellectuel de son temps. Donc forcément, il a des questionnements. Il ne peut pas déconnecter sa personnalité d'individu de sa personnalité de chercheur. Donc il est évident qu'un chercheur, dans 2022, n'est pas dans le même monde et n'a pas les mêmes questionnements qu'un chercheur dans les années 40 ou au milieu du 19e siècle. On n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes méthodes, mais on n'est tout simplement pas dans le même monde et donc pas avec les mêmes interrogations ou les mêmes sujets. On on ose aujourd'hui des choses qu'on n'osait pas il y a un demi-siècle.
Vous n'auriez pas pu faire ce dictionnaire amoureux de l'archéologie.
Non, en tout cas, pas comme ça. Pas possible. Je pense qu'on aurait pu faire un dictionnaire amoureux de l'archéologie il y a un demi-siècle. Mais il n'aurait pas été celui-là, parce qu'il y a un certain nombre d'entrées qui n'auraient pas été possibles.
Il n'y aurait pas eu l'entrée saucisson.
Il n'y aurait peut-être pas eu l'entrée saucisson, encore que les annales existaient déjà, on aurait peut-être pu mettre l'entrée saucisson.
Parce que votre entrée saucisson, elle n'est pas que culinaire et gastronomique.
Non, en fait, l'entrée saucisson, c'est le dernier, c'est un clin d'œil au dernier ouvrage de Jacques Le Goff, le médiéviste historien, dont le titre est « Faut-il couper l'histoire en tranches ?» Et que moi, quand je pense tranches, je pense saucisson. Donc voilà, donc, du coup, j'ai osé, alors qu'on me disait c'est une entrée folle, de faire une entrée saucisson pour expliquer justement que on est les historiens et les archéologues qui sont des historiens, souvent cantonnés à finalement une tranche de temps, un espace, et qu'on doit se contenter de ça, et que je pense que le regard, même si on est spécialiste d'un temps et d'une région, multiplier les regards, se perdre, se disperser, regarder ailleurs, s'interroger, ça enrichit, ça nourrit. Et donc, c'est une entrée, effectivement, qui est à la fois sérieuse et qui comporte quand même une part culinaire. Mais c'est aussi une réflexion sur, finalement, notre manière de travailler en histoire.
C'est ça, la manière de travailler en histoire et en préhistoire. Et aujourd'hui, vous parliez des outils. Il y a un outil formidable pour remonter le temps, c'est l'ADN. Oui. L'ADN ancien qui permet quoi de repartir autrement sur des terrains de fouilles, de revisiter autrement des vestiges et des fossiles qui ouvrent quoi d'autres fenêtres. Alors on le sait par rapport à nos grands ancêtres, Néandertal, Denisova, on sait les mélanges, on sait qu'il y a eu plusieurs espèces humaines sur Terre, mais qui permet aussi pour vous, préhistorienne de temps plus récent, de proto-historienne, de découvrir des choses.
Oui, en fait, on travaille aujourd'hui, alors on n'a pas exploré tout. Sur l'ADN, il y a encore des tas de pistes et c'est un sujet compliqué et sensible parce qu'on a également des possibilités, j'allais dire, d'instrumentalisation de cette méthode à des fins qui ne sont pas très scientifiques. Et donc ça, c'est un écueil et on a une vigilance très forte.
C'est-à-dire
On peut imaginer... l'archéologie a été instrumentalisée depuis ses débuts, c'est-à-dire qu'elle permet d'une certaine manière d'annihiler le temps et d'essayer de chercher des preuves du premier qui était là avant un autre et de légitimer des positions qui sont des positions finalement politiques, géopolitiques, très contemporaines et pas du tout une analyse historique des
phénomènes.
Essayer
de plaquer, de faire dire ce qu'on veut au passé.
Hein. Faire dire ce qu'on veut au passé et prouver entre guillemets que... Et donc on a une acceptation ou un refus d'un certain nombre de résultats. Et l'ADN fait partie de ces méthodes qui peut soulever un certain nombre d'interrogations sur ce plan-là. Mais tout simplement, on a effectivement, par l'ADN, un certain nombre d'informations sur les populations, sur les questions de migration, sur les questions d'origine, sur les questions d'association, de liens familiaux dans des cimetières. Et donc, on a des pistes qui sont encore très ouvertes, mais qui sont très prometteuses, à condition, effectivement, que ce soit assorti d'une forme d'éthique, de déontologie, de la méthode d'exploitation de ces données.
Autour de la question « Pourquoi et comment faire un dictionnaire amoureux de l'archéologie ?» On continue de s'interroger avec vous, mais on s'arrête d'abord sur votre choix musical tout à fait contemporain, mais aux sonorités quand même étranges, Anne Loerff, qui nous font renouer avec notre nature humaine, mais aussi notre nature sauvage. Vous avez choisi d'écouter « Lick Lee, I follow the river », la chanson culte du film de Jacques Audiard de Rouille et d'os. Tiens donc, de Rouille et d'os sur RFI.
Shine.
Follow the River, très joli morceau de Like Lee, chanson culte du film de Rouillé d'Os. Est-ce que c'est pour ça que vous l'avez choisi, Anne-Noël ?
Oui, tout à fait. C'est exactement pour cette raison-là. Et avec, évidemment, tout ce qu'on peut arriver à dégager derrière cette chanson par rapport au film, par rapport
au choc
de ce film et aussi finalement à ce qu'il renvoie dans le rapport entre l'homme et l'animal. Alors là, c'est une chanson culte ou de danse où le corps est libre d'une femme qui effectivement dont le destin bascule à cause d'un rapport avec un animal qu'elle croit d'une certaine manière maîtriser et qui se retourne contre elle. Et cette maîtrise de l'animal, les sociétés humaines l'ont mis dans leur histoire avec le néolithique, avec la volonté de dominer les animaux à partir, pour l'Europe, de 10 000 à peu près, 10 000, 8 000 avant notre ère, avec le foyer du Proche-Orient. Et donc, on pense que l'on domine complètement l'animal. Et en fait, les animaux ont apporté un certain nombre de maladies avec cette domination. Et puis, les animaux, de temps en temps, se rebellent. Et dans ce film, c'est terrible parce qu'effectivement, cette rébellion, cette attaque détruit une vie qu'elle arrive malgré tout à reconstruire.
C'est ça, il y a de la reconstruction, il y a de l'os et de la rouille. Il y en a aussi dans votre dictionnaire amoureux de l'archéologie que vous venez de publier à Noël aux éditions Plomb, qui est aussi, hein, on l'a dit, une invitation à ce dictionnaire à changer de regard sur notre passé et donc sur notre présent, à nous intéresser alors aussi bien aux plus humbles qu'aux plus puissants, mais à travers d'autres critères, comme notamment celui de l'archéologie du soin et du handicap. Alors, il y a une pionnière dans ce domaine, Valérie Delattre, archéologue à l'INRAP, qui depuis sa rencontre avec Riyad Salem, champion paralympique, militant et poète, se consacre à cette archéologie du handicap. Ils ont publié tous les deux un magnifique ouvrage sur les prothèses de notre humanité. Je propose d'écouter l'éclairage de Valérie Delattre.
Bien sûr, il y a des prothèses qui datent depuis des temps immémoriaux, parce que pour qu'il y ait prothèse, il faut qu'il y ait corps abîmé, il faut qu'il y ait amputation. En l'occurrence, des squelettes portant des traces d'amputation, on en connaît depuis Néandertal. Mmh. Donc on est 45 000 ans avant notre ère, on a la trace d'un sujet qui a 40 ans, qui vivait en Irak et qui a été amputé d'un avant-bras. On n'a pas de prothèse, si tant est qu'il ait été appareillé, parce que la plupart des prothèses sont en bois ou en matériaux périssables. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un grand saut en Égypte, où pour le coup, autour des momies, les prothèses se conservent. Donc on a des prothèses de 1500 ans, 2000 ans avant notre ère, des prothèses qui sont à la fois fonctionnelles pour aider à la marche, à la déambulation, de façon très classique, c'est des prothèses assez modernes, et on a des prothèses qui sont esthétiques, qui servent à la complétude des corps, puisque dans l'au-delà, si on n'était pas complet dans le monde réel, il fallait qu'on le soit dans l'au-delà. Donc on trouve aussi des prothèses qui n'ont jamais servi, qui sont des prothèses pour la complétude des corps.
Ça raconte aussi une autre histoire de nos ancêtres, parce qu'on se rend compte qu'il peut aussi avoir un aspect esthétique.
Exactement.
Et puis c'est aussi une histoire du soin apporté à l'autre. Et dans nos sociétés aujourd'hui, on se dit, tiens donc, ça existait déjà.
C'est pour ça que moi j'utilise volontiers dans notre démarche le terme d'éclairer. C'est un éclairage, ce que l'on fait sur les temps passés, qui éclaire nos propres comportements. Et en fait, la question de Riyad qui a tout fondé, c'était le sens, derrière mes grilles d'archéo-anthropologie, de travailler sur la vulnérabilité de gens anonymes, comme de gens très célèbres. Le plus grand célèbre handicapé du monde, c'est Toutankhamon quand même, qui est mort très jeune d'ailleurs, mais c'était le premier à marcher avec des cannes. Donc on a des personnages très célèbres, mais on a surtout la grande cohorte de ces gens anonymes que je fouille, auxquels je restitue une identité, et leur vulnérabilité est passionnante parce qu'elle a toujours été prise en charge par leurs proches. La première aide, la première prothèse, c'est l'humain qui aide son contemporain. Donc l'aide à la mastication, c'est le premier soin que l'on peut imaginer quand on découvre des squelettes avec des édentements complets. Donc les prothèses ne laissent pas forcément de traces, mais les squelettes laissent des traces d'une aide que l'on peut réinterpréter.
Vous voulez réagir à ce superbe éclairage, humain, de Valérie Delattre?
Oui, elle fait un travail absolument formidable, Valérie Delattre. Et effectivement, elle met très bien en lumière le fait que c'est finalement un des premiers signes d'humanité des hommes en société que de prendre soin d'autrui. et que ça prend des formes qui vont effectivement jusqu'à les prothèses, le soin tout simplement aux autres pour la vie, pour les rituels funéraires, pour des questions religieuses.
Et tout ça, on le découvre en tant qu'archéologue en fouillant, parce qu'au fond, vous fouillez beaucoup les sépultures, les tombeaux, vous êtes évidemment, vous travaillez sur la mort, mais à travers la manière dont ont été enterrés les morts, dont on s'est occupé de nos morts et de nos vivants, hein, d'abord, dit des choses.
Je crois que c'est assez emblématique, en fait, finalement, du travail de l'archéologue et de l'évolution, ce que fait Valérie Delattre. C'est-à-dire que, en fait, on travaille sur des traces matérielles très concrètes. C'est-à-dire qu'un os qui a été cassé et qui montre une réparation qui n'a pu être faite que par autrui. Donc ça, c'est le fait. Ensuite, il y a l'interprétation de l'archéologue qui va dire s'il y a eu réparation, s'il y a eu soin, c'est que la société faisait comme ça. Et donc, on est dans l'analyse qui va permettre d'écrire justement le récit des sociétés en action et des gestes que l'on ne voit pas directement en archéologie, mais que l'on va chercher justement précisément à retrouver, comme on va essayer de retrouver les motivations de ces gestes. Donc c'est une construction d'une certaine manière à plusieurs étages. Et en plus, la thématique qui a été développée dans cette archéologie du soin, qui est aujourd'hui un sujet fort dans l'archéologie française grâce à Valérie Delattre, c'est un sujet qu'on n'aurait pas osé justement se poser il y a 50 ans, qu'on n'aurait pas vu de cette manière-là. Il a fallu que l'archéologie, d'une certaine manière, mûrisse, invente des protocoles, s'intéresse à l'archéologie funéraire de cette manière-là, réfléchisse à sa manière de travailler et à ce dont elle est capable pour oser de tels sujets, ce qu'elle fait aujourd'hui sur ce sujet-là comme sur d'autres. Et effectivement, ça, c'est formidable.
Ça, c'est formidable. Et puis, alors, l'archéologie, c'est pas seulement s'intéresser à nos ancêtres, au lointain passé. On n'a pas parlé de Néandertal, on n'a pas parlé d'égyptologie, mais il fallait la lettre N, il fallait la lettre E pour le découvrir. Et puis, c'est aussi, aujourd'hui, un moyen de travailler sur les guerres, mais les guerres récentes, les guerres du siècle passé. Je m'arrête, parce que là, vous me l'avez fait découvrir, la lettre G. C'est un peu compliqué à prononcer. G comme Grimsby Chums. Vous nous faites découvrir, Anne Loerff, un épisode inédit, terriblement touchant, des soldats anglais pendant la guerre de 14. Écoutez voir cet hymne en hommage à ces Grimsby Chums de la guerre de 14. Hommage à ces soldats britanniques de la Première Guerre mondiale qui ont été, on parlait de soin, c'est la guerre, mais en même temps, ils ont été enterrés avec soin.
Oui, tout à fait. En fait, cet épisode est très touchant. Alors, ça se rapporte à l'archéologie du monde contemporain, parce que l'archéologie, justement, d'aujourd'hui, ne s'interdit aucun lieu et aucune époque. Sous la terre, sous les eaux, il y a très longtemps, il y a très peu de temps. Tout, elle s'approprie tout. Et cet épisode, effectivement, de ces soldats, de ces potes, puisque ça veut dire potes.
Chums,
les potes.
Grimsby, les potes de Grimsby.
Voilà. Sont visibles, ont été tués ensemble. Et ils ont été inhumés ensemble avec les bras l'un avec l'autre, ce qui effectivement est, enfin, se superposant dans une fosse et donc avec soin, ce qui n'est pas prévu par d'une certaine manière un quelconque protocole d'inhumation et surtout pas en temps de guerre. Mais l'amitié, l'attention à l'autre a été plus forte finalement que le conflit. Et c'est intéressant de voir que l'archéologie peut arriver finalement à ce niveau-là d'analyse et à ce niveau-là de proximité de la vie quotidienne des individus, y compris dans la guerre et à travers ces rituels funéraires.
Et en même temps, ça peut aussi être un outil très précieux aujourd'hui pour étudier les conflits les plus récents, oui. Pour étudier le pire et le meilleur de l'humanité. Vous-même, en tant qu'archéométallurgiste, vous travaillez aussi sur les épées, sur les premières armes qui ont servi à faire la guerre. On l'a dit, les archéologues exhument au fond le meilleur comme le pire de notre humanité à travers leurs fouilles. Et c'est précisément ce sur quoi s'interroge une philosophe. Marie-Françoise Salès, elle est professeure de philosophie au lycée. Elle est autrice d'un très bel essai sur le sourire, une approche philosophique. Et elle aussi nous a laissé une très grande question pour vous. Écoutez, Anne Loerff.
C'est des questions que j'aborde pas mal avec mes élèves, ça, qui les qui en général les font assez réagir, à savoir, question toute bête, est-ce qu'elles pensent que l'homme a toujours été un animal agressif ? Est-ce que les hommes ont toujours mené des guerres ? La question, en fait, qu'est-ce que son étude du passé révèle, selon elle, sur la nature humaine ? Qu'est-ce que vous pouvez répondre, Anne Noerff ?
Alors oui, par rapport à ces questions de conflit et au champ d'analyse des archéologues, il y a dans le dictionnaire, on a parlé tout à l'heure des entrées drôles et légères, il y a Rwanda qui est une entrée quand même vraiment pas légère du tout, sur la question qu'effectivement les archéologues aujourd'hui s'intéressent au génocide contemporain et aident les enquêteurs, y compris de criminels, des enquêteurs criminels à trouver finalement des indices qui leur permettent de remonter jusqu'à des coupables et jusqu'à des épisodes aussi dramatiques, effectivement, que ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Ce qui invite à la question de la violence, à la question de la guerre qui est posée ici. Alors, c'est difficile, on vient de parler du soin, donc on voit bien que l'homme est capable du meilleur et d'être attentif à autrui. Je pense que c'est un des fondements même de finalement des sociétés et de ce que l'on appellerait les civilisations dans leur diversité. La question de la violence est malheureusement visiblement l'autre pendant de l'humain qui est en désaccord avec son voisin pour mille raisons. La question est de savoir à quel moment, d'une certaine manière, ça va au-delà finalement du différent, un petit peu violent, et à quel moment finalement les sociétés organisent la violence contre autrui.
Ah oui, c'est ça, il y a une différence entre une rixe entre deux personnes, voilà, ça on en trouve des traces, évidemment, mais le passage à la guerre ou à la violence organisée, ça c'est autre chose.
Ça c'est autre chose, c'est-à-dire qu'effectivement, avoir un coup de sang et aller cogner le type d'en face qui vous a volé votre mammouth, admettons, on est sur une réalité, on peut être sur une réalité ponctuelle, et cette réalité ponctuelle, elle n'est pas la guerre en tant que telle, elle est la nature humaine violente qui ne se contrôle pas. Là où on change d'une certaine manière de registre, c'est à partir du moment où les sociétés organisent, c'est-à-dire que prennent une part de leur activité, mettent en place un système qui s'appelle la guerre, qui est système en tant que tel.
Mais comment un archéologue voit ça ?
Alors ça, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on a des interrogations et des débats qui existent pour les périodes qui sont, on va dire, avant la fabrication d'objets qui disent la guerre. Vous évoquiez l'épée tout à l'heure. C'est vrai que moi, j'ai étudié des armes, dont les épées. L'épée, qui naît en Europe vers 1600, entre 1700 et 1600 avant notre ère, c'est le premier objet que l'homme crée qui ne peut être qu'un objet qui sert effectivement à attaquer autrui. Il peut être associé à une symbolique de prestige, mais en tant qu'objet fonctionnel, il sert à blesser, tuer, attaquer l'autre.
C'est ça sa fonction première. C'est en ça, fait. Ça, alors autrement, un silex, ce n'est pas sa fonction première.
C'est-à-dire que jusqu'à cette date-là, on a des objets qui sont des objets doubles. C'est-à-dire qu'une hache, vous pouvez aller tuer l'autre, mais a priori, c'est quand même plutôt un outil. Donc, on peut toujours discuter pour savoir si on est dans un système de guerre ou pas. Certains le pensent. En tout cas, on n'est pas dans ce niveau de réalité, de course à l'armement que signent les armes de guerre en tant que telles. Et que l'on voit se développer très clairement à partir du deuxième millénaire en Europe avant notre ère. Et l'épée en est un symbole, même si ce n'est pas le seul objet, c'en est un symbole très fort. Et à partir du moment où on lance, d'une certaine manière, ces systèmes de guerre, on ne reviendra plus jamais en arrière et on ne fera que augmenter d'une certaine manière les moyens et les systèmes pour aller combattre l'autre. C'est pas ce qu'on a inventé de plus beau.
Ça, c'est clair. C'est vraiment la course aux armements. Anne Noerff, comment faire aussi aujourd'hui, vous le faites dans ce dictionnaire tout de même, pour décentrer notre regard ? Parce que l'archéologie est une discipline qui a été inventée en Europe, en Occident. On a quand même eu tendance à la penser sur le pourtour méditerranéen, le Proche-Orient. Mais on a quand même eu du mal, vous en parlez d'ailleurs. Il y a aujourd'hui des archéologues en Amazonie, il y en a d'autres, il y a des jeunes en Afrique qui vont travailler. Afrique est le continent de l'art rupestre, mais on l'a un peu oublié. Comment fait-on maintenant aussi pour recentrer notre regard sur toutes ces des préhistoires de l'humanité.
En fait, justement, je crois qu'il faut décentrer et démultiplier les regards. Mmh. Alors qu'en fait, finalement, le développement de ces archéologies mondiales ont été très connectées à une histoire géopolitique très contemporaine. Et dans un premier temps, ce sont effectivement les Européens qui ont plutôt inventé l'archéologie, d'abord sur le pourtour méditerranéen, puis au-delà. Puis en découvrant d'autres continents qui ont associé un regard, on va dire, ethnologique et anthropologique. Et puis aujourd'hui que les pays ont finalement en main leur propre destin, on est sur des réalités de jeunes qui ont été formés dans leur pays et qui sont en capacité de prendre en charge de manière totalement autonome dans des collaborations internationales l'histoire de tous ces pays. Et donc on est aujourd'hui dans une dynamique différente qui est beaucoup plus riche et plurielle autour du monde. Et ça, c'est très intéressant. Il faut garder une vigilance, je crois, parce que dans tous les pays du monde, je parlais tout à l'heure de l'instrumentalisation, on n'est jamais à l'abri d'une certaine manière d'un danger de l'utilisation de cette histoire très ancienne et de ces préhistoires très anciennes.
Nous étions les premiers.
Voilà, avec des idéologies qui peuvent être des idéologies extrêmement dangereuses quand elles sont radicalisées et quand le passé est le signe finalement d'une histoire dont on ne veut pas. Les Bouddhas de Bamiyan ont été détruits devant les caméras de télévision. À Palmyre, le site a été détruit et le directeur du site a été mis à mort devant les caméras. Donc l'archéologie, ça peut être du rêve, ça peut être un sujet très léger. Ça révèle une richesse incroyable de l'humanité, une diversité. Il faut que les sociétés contemporaines puissent s'en emparer et avec légèreté et une part de rêve et également finalement un sérieux historique.
C'est ça, c'est ce qu'en feuilletant ce dictionnaire, c'est ça, on a de la légèreté, le sourire aux lèvres et du sérieux pour terminer peut-être. On ne va pas s'arrêter sur la page regret parce que sinon on ne s'arrêterait jamais parce que dans la page regret, je ne sais pas, moi j'ai des regrets de ne pas avoir cité le P comme poubelle, le S comme sirène, tiens donc, le S comme sexe aussi ou le W comme whisky ou encore le P comme, enfin je ne sais pas, pour poule. Oui, ça aussi, on aurait pu.
On aurait pu, poule, oui, c'est vrai.
C'est un regret. Hein.
Ah, oui, c'est un regret, une poule, oui. Ben oui, parce qu'en fait, c'est un animal domestiqué intéressant et qui, aujourd'hui, est quand même très présent.
Donc, il faut un prochain dictionnaire amoureux de l'archéologie.
Quelle surprise. Peut-être pas de la poule, mais de l'archéologie.
Peut-être pas de la poule, mais de l'archéologie, on est d'accord. Quelle surprise vous avez, quoi, les 20 secondes pour nous dire quelle surprise vous aimeriez découvrir, avoir ou nous donner à entendre.
Quelle surprise ?
Oui, archéologique.
Archéologique ? Fouf, c'est une vraie question difficile.
Eh bien, vous reviendrez pour nous parler la prochaine fois. Parce qu'on est loin d'avoir abordé les 161 entrées de votre magnifique dictionnaire amoureux de l'archéologie qui vient de paraître aux éditions Plomb. Bon, bah, rendez-vous est pris, Anne-Laure, à bientôt.
À bientôt.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs et auditrices, pour notre première table ronde de l'année avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique. Il y aura comme chaque mois plein de magazines à gagner pour vous autour de la question comment la science infuse et se diffuse avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Merci de votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.